que Jésus pose à ses disciples un jour que son ministère prend son tournant décisif. Cette question est marquée sur, dans la Bible et sur vos cahiers, Matthieu 16, 15, 16, 20, 23. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Il leur avait posé la question avant. Les gens qui est-ce que je suis pour eux? Maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Puis Jésus ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples, en disant, il faut que j'aille à Jérusalem, que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs et des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort, et le troisième jour, je reviendrai à la vie. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Une fois que les disciples parviennent à la conviction que leur maître est bien le Messie qu'ils attendaient, Jésus peut commencer à enlever un peu ce secret messianique et à annoncer ouvertement la nécessité de sa mort. Maintenant, il pourra leur dire qu'il est obligé de mourir. Et là, les disciples vont se heurter à ce que l'apôtre Paul appellera plus tard le scandale de la croix. Parce que ça n'est pas comme cela du tout que les disciples voyaient la vie du Messie. Ceci représentera pour eux finalement un obstacle à leur foi. Parce que les Juifs avaient sur le dessein de Dieu un certain nombre d'idées préconçues. Ils identifiaient par exemple le règne du Messie à l'imposition de la loi Moïse de manière universelle. C'est-à-dire le judaïsme rabbinique devait être la règle du monde entier. C'est comme ça qu'ils voyaient la venue du Messie et son règne. Mais Jésus, qui parle du dessein de Dieu, mais dans sa vérité, ne comprend pas les choses de cette manière-là, ne l'enseigne pas de cette manière-là, et les gens ne comprennent pas pourquoi, ne savent pas pourquoi. Quand il parle de ce dessein de Dieu, mais de façon énigmatique, son enseignement rencontre beaucoup d'incompréhension et même de l'incrédulité. Jean chapitre 6, 51-53, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. » Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. C'est une annonce un peu voilée, mais c'est une annonce de sa mort. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous.
Bon, ça a dû être choqué, sûrement ça a été choqué, parce que derrière cette terminologie si crue ou brutale se cache une réalité aussi crue et brutale, c'est-à-dire le meurtre du Messie. Il était en train d'annoncer sa mort, qu'il serait tué et va se laisser saigner jusqu'à mort sur la croix. Et c'est par la mort que le Christ accomplira le dessein de Dieu qui consiste à procurer aux hommes la vie éternelle. C'est ça son but. Pas seulement nous laver de nos péchés, mais nous donner quelque chose qui dure, la vie éternelle. Or, pour avoir pas ce dessein, il faut, dit Jésus dans ce passage que Charles vient de lire, manger sa chair et boire son sang. Et il faut expliquer que ce ne s'agit pas ici de repas, ce qu'on appelle le repas du Seigneur ou la Sainte-Seine, ou le repas eucharistique, mais ça veut dire accueillir dans la foi un Messie rejeté et mutilé brutalement par le peuple élu. Il faut recevoir ce Messie-là, accepter ce Messie-là qui a souffert, comme a annoncé Ésaïe en Ésaïe chapitre 53. Et voilà la réalité concrète que les auditeurs juifs de Jésus doivent discerner dans ce langage imagé. Verset 64 de ce même texte, « Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire, « Cette parole est rude, qui peut l'écouter ? » Mais sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit, c'est donc pour vous une cause de scandale? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous ceux qui ne croient pas, ou eux qui ne croient pas. Bon, les disciples ne sont plus d'accord avec Jésus, certains je veux dire, et le laissent tomber, parce que comme Pierre, dans le passage en Matthieu que nous avons lu, qui a dit « À d'une place, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », ils jugent selon la chair, c'est-à-dire selon leurs propres idées religieuses et humaines. Ils ont leur idée de ce que c'est le Messie, ce qu'il doit accomplir, et ce n'est pas dans leur plan, dans leur projet pour le Messie, qu'il meurt. Mais contrairement à eux, c'est les disciples qui quittent Jésus après il a dit ces choses dures. Pierre ne l'abandonne pas. Bon, plus tard, il va le renier, mais au moins, il reste là pour lui, il ne laisse pas tomber Jésus. Pour la pensée humaine, religieuse ou pas, ne saurait jamais deviner le dessein de Dieu, ni mener la vie. C'est-à-dire, je peux avoir des idées de comment sauver moi-même ou vous, mais ça ne vaut rien. Et on a beaucoup dans nos études à l'école, la philosophie, tout ça, mais ça ne mène à rien. En effet, ça confond les choses au lieu d'aider les choses. Car seul l'Esprit de Dieu peut connaître le dessein de Dieu et peut le révéler aux âmes. Or, les paroles de Jésus dites sur la nécessité d'accepter sa mort, avec cela viennent justement, tout cela vient de l'Esprit qui doit mourir. Et j'aimerais maintenant relever trois vérités fondamentales que la croix de Christ nous révèle sur Dieu et sur son dessein à l'égard des hommes. Et j'aimerais bien, si vous voulez les noter, que vous marquiez cela dans les marges de votre petit cahier. Ici, il y a un stylo s'il en faut. Bon, trois vérités fondamentales que la croix de Christ nous révèle sur Dieu et sur son dessein à l'égard des hommes. Pour la première vérité, c'est Charles.
La première, c'est que quand Jésus meurt, il nous montre que Dieu nous aime et qu'il est de notre côté. 1 Jean 4, 9 et 10, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour que, grâce à son sacrifice, nos péchés soient pardonnés. Si Dieu n'avait pas accompli cet acte inimaginable, comment aurions-nous su à quel point il nous aime? Est-ce qu'il y a un autre événement dans l'histoire de l'humanité qui nous montrerait à ce point combien Dieu nous aime ou quels sont ses sentiments à notre égard? Si la réalité suprême de notre existence est l'amour de Dieu, alors la preuve suprême de cette réalité suprême, c'est l'événement suprême. Et l'événement suprême de toute l'histoire, c'est la croix de Jésus-Christ. En Timothée 2, 3 à 6, voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu et il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour les libérer tous. Il a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il a apporté ainsi, par sa mort, la preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La croix est donc la preuve que Dieu veut le salut de tous les hommes. C'est la preuve qu'il nous aime plus que nous n'aimons nos péchés. C'est dans la bouche de Jésus que Blaise Pascal, mais ses paroles dans une de ses œuvres, « Je t'aime plus ardemment que tu n'as aimé tes souillures. » Nous savons très bien, chacun individuellement, à quel point nous aimons nos péchés. Et nous nous complaisons dedans, parfois. Et il en est difficile de sortir, tout au moins de manière volontaire. Eh bien, Dieu nous dit, je vous aime plus que vous aimiez vos péchés.
Bon, ça c'est la première vérité. La deuxième vérité fondamentale est que la mort de Jésus nous révèle jusqu'ira notre péché, ce que notre péché fera si on le laisse continuer. En effet, il est déjà arrivé. Bon, l'amour de Dieu incarné vient chez nous et cherche à être accueilli comme un frère et se voit traité pire qu'un animal, trahi par ceux qu'il aime le plus au monde. Et j'aime bien imaginer que j'aurais agi autrement que ceux qui ont crucifié Jésus. Il est venu chez eux, il les a apporté tellement de choses, il a fait tellement de bonnes choses pour eux, les miracles, les grands services, qu'on peut le dire, qu'il les a rendus, et en même temps se montrer comme étant le Messie, mais ils l'ont rejeté. Et j'aimerais bien m'imaginer, moi, que je n'aurais pas fait cela, mais je ne fais pas des illusions. Je crois que nous ne devons pas non plus. Vous et moi, nous ne sommes que des êtres humains, pas meilleurs que les autres. Et chaque semaine que dans la Sainte Cène, ce repas du Seigneur que nous prenons ensemble, nous nous rappelons ce crime dans l'espoir que nous finirons un jour par apercevoir dans nos gestes le rôle que nous avons joué dans cette folie diabolique qui voulait débarrasser notre monde de son Créateur. Quand il y a un Negro spiritual, vous connaissez ça, n'est-ce pas, que j'aime bien, qui dit « Étiez-vous là quand ils ont crucifié mon Seigneur ? Parfois même, je m'en tremble. » Bon, je peux le chanter si vous voulez, mais en anglais, mais je ne le ferai pas. « Étiez-vous là quand ils ont crucifié mon Seigneur ? Parfois même, j'en tremble. » C'est la traduction française. Vous savez que les gens parlent souvent de devenir chrétien, comme s'il s'agit de s'inscrire pour un pique-nique communautaire. Villeurbanne va faire sa fête, ou il a fait sa fête dernièrement, et il y avait sûrement des repas ou des choses organisées, donc on s'inscrit à un pique-nique. Mais ce n'est pas comme cela que ça se passe, devenir chrétien. Nous devenons chrétiens à la suite d'un choc que cela nous a donné, de voir le sang de Jésus sur nos propres mains. C'est-à-dire se rendre compte que nous aussi, nous sommes responsables pour la mort de Jésus, bien que nous vivions 2000 ans après les événements. La croix est devenue, à juste titre, notre logo. Pas le logo des chrétiens, mais de l'humanité. C'est-à-dire tous les hommes sont responsables de la mort de Christ. Il est mort à cause de nos péchés, à cause de ce que nous avons fait. Et en réalité, nous sommes des fabricants de croix. Nous sommes des tueurs, des meurtriers, en fin de compte. Car c'est presque la nature humaine que l'on ne trouve pas chez d'autres espèces. À ma connaissance, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je ne connais pas des animaux qui cherchent à tuer les autres pour le tuer, comme l'être humain fait. Qui rejette un autre comme ça. Bon, il y a des fois que ça arrive, mais pas habituellement ou continuellement. Notre nature n'est non seulement comme Caïn, qui a tué son frère Abel, donc l'homicide, mais nous sommes comme la foule à Gogota, les déicides, c'est-à-dire ceux qui tuent Dieu. C'est presque la nature humaine de fabriquer une bonne croix bien solide, et chacun à sa manière y clouer notre Dieu. Quand je réfléchis profondément, je suis responsable, moi aussi, pour avoir mis Jésus sur la croix, et chacun de nous aussi. Et c'est à partir de ce moment-là que la personne commence à vraiment se convertir, à se tourner vers Dieu, cette repentance dont on a parlé tout à l'heure. Jean 1, verset 10. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, c'est-à-dire il a été créé par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Cela est notre histoire. Voilà qui nous sommes. Dans le cas contraire, nous n'aurions pas eu besoin de rédemption. Mais le fait est que nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés de nous-mêmes. Et ainsi, la mort de Jésus nous révèle jusqu'ira notre péché, à tuer le Créateur de la vie.
Troisièmement, la mort de Jésus nous obtient non seulement le pardon, mais la connaissance d'avoir été pardonné. Romains 3, 21 à 25. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. La loi et les prophètes en avaient parlé. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui. Le texte que je viens de vous lire commence par le mot « Dieu nous a montré temps passé ». Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, Dieu a dévoilé une fois pour toutes. Et cette expression est si importante qu'elle est reprise dans l'Épître aux Hébreux, entre autres, pour nous montrer que Dieu, ce que Dieu a fait, il ne le refera plus. Il l'a fait une fois pour toutes. Et ce sacrifice est toujours valable aujourd'hui. Son projet pour pardonner les hommes a été mis en place il y a 2000 ans. Et il est toujours là aujourd'hui et il peut toujours tout autant pardonner les hommes aujourd'hui, ceux qui viennent à lui. Les théologiens essaient d'expliquer, de proposer des théories différentes pour expliquer le pourquoi il était absolument nécessaire que Dieu agisse de cette manière-là. Pourquoi il fallait que le Fils de Dieu même vienne sur la terre et meure. Bon, ça on peut en discuter à longueur de journée. Ce dont nous pouvons être certains, c'est qu'il fallait bien. Il fallait bien qu'il vienne. Il fallait bien, et il est venu. Et puis aussi, les théologiens parlent beaucoup du comment. De quelle manière le sacrifice du Christ a-t-il souvenu aux besoins de notre pardon? Et là encore, on peut parler à longueur de journée. Mais l'important, c'est que son sacrifice a suffi, et sa mort nous a effectivement obtenu la rédemption qu'il nous avait promise. Il faut noter, avant de quitter ce texte de Romains 3 que je viens de vous lire, que Paul met l'accent sur la foi. La croix de Christ obtient le pardon de quiconque croit. Quiconque croit. Non seulement Dieu nous aime, mais il veut ardemment que nous l'aimions en retour. Mais l'amour ne s'impose pas. L'amour ne se force pas. L'amour s'offre. Alors Dieu ne nous forcera pas à l'aimer. Il voudrait tellement que nous l'aimions. Mais il nous laissera le choix de dire oui ou non. Mais ce n'est pas parce qu'il nous laisse le choix qu'il ne prend pas à cœur notre réponse à son initiative.
Bon, nous arrivons maintenant à la résurrection. On a parlé de la mort, assez sombre, la raison de la mort, maintenant la résurrection. Les quatre évangiles ils témoignent surtout de la du désarroi et de la désillusion des apôtres au lendemain de la crucifixion. Ils ne pouvaient pas croire que cela est arrivé et ils étaient dispersés, ils ont pris la fuite, des choses comme ça. Les deux disciples d'Emmaüs, par exemple, je crois qu'ils traduisent bien la déception générale des apôtres et de tous les disciples, Luc 24, verset 21. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Et remarquez bien le passé. Là, nous avions l'espoir. L'espoir est perdu maintenant, au moins temporairement. Bien que Jésus leur ait annoncé la nécessité de sa résurrection, aucun d'eux ne s'est rendu au tombeau le troisième jour pour le saluer, lui, son retour à la vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, les femmes sont allées pour quelle raison? Pour embaumer son corps. Ils n'attendaient pas cela. Il semble qu'il a parlé de la mort, ça leur a choqué, ça leur a attristé. On a parlé de cela hier dans notre classe sur l'évangile selon Jean. Mais la partie en ce qui concerne la résurrection est passée à travers. Ils n'ont pas vraiment saisi l'espoir ou ce qu'il annonçait là. Bon, ce n'est que plus tard que les apôtres enseignés que le Christ est ressuscité, qu'ils en viendront à comprendre la place centrale que s'occupe cet événement inattendu dans le dessein de Dieu. En Actes chapitre 13, versets 32-33, nous-mêmes, nous vous apportons cette bonne nouvelle, ce que Dieu avait promis à nos ancêtres. Il l'a accompli maintenant pour nous, nos descendants, en ramenant Jésus à la vie. Donc si la croix révèle et réalise notre délivrance de l'emprise du péché, nous sommes esclaves du péché, nous sommes délivrés par la croix, le deuxième élément de notre rédemption, c'est-à-dire le tombeau vide, révèle et réalise notre délivrance de l'emprise de la mort. Péché et mort, nous sommes délivrés. L'immortalité constitue donc, après le pardon, le deuxième élément de notre rédemption prévu dans le dessein de Dieu. L'idée d'avoir quelque chose d'éternel. 2 Timothée 1, versets 9 et 10. C'est Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non à cause des œuvres que nous avons accomplies, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce en Jésus-Christ avant le commencement du temps, mais il nous l'a manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, car Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort et au moyen de la bonne nouvelle, il a révélé la vie éternelle. Donc c'est grâce à la résurrection de Jésus que nous savons que la vie ne prend pas fin au tombeau, ou que la mort ne conduit pas vers le néant. Il y a quelque chose au-delà de la mort. En Corinthiens 6, verset 14, « Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Et là, il y a une promesse. La vie éternelle n'est présentée comme une promesse. C'est toujours comme une promesse. Tout ce que Dieu demande de nous, donc, c'est que nous, en ayant le désir, et que nous disions oui à cette promesse. Et la promesse est là, maintenant, il faut que je la saisisse, que je la prenne entre mes mains. Au fond, donc, c'est une affaire de confiance. Je dois croire que Dieu dit vrai. Et basé sur cette foi-là, cette confiance-là, j'agis et j'accepte ce qu'il m'offre. Parce que Dieu a prouvé sa fidélité en ramenant à la vie Jésus de Nazareth. Celui qui avait dit à la sœur de Lazare, Jean 11, versets 25 à 27, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et Marthe a répondu, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Donc, sa foi en cette résurrection dépendait de sa foi en la personne du Christ, cette confiance-là.
La résurrection du Christ nous dit que le péché et la mort finiront par perdre la partie. Il suffit de se promener dans un cimetière, je ne sais pas si vous faites ça souvent, mais de temps en temps j'ai l'occasion de le faire, je l'ai eu récemment, pour se rendre compte que la mort domine sur l'homme depuis longtemps. J'ai été à Bruxelles il y a quelques semaines et j'ai eu quelques minutes dans un cimetière et j'ai remarqué des tombeaux qui enfin des pierres tombales qui étaient à peine lisibles, les paroles étaient à peine lisibles parce que ça datait de 1800, 1801 et 1803, ça fait longtemps. Mais c'est depuis bien avant que la mort domine sur l'homme. Les pyramides de l'Égypte que nous admirons dans leur grandeur sont des témoignages à l'emprise de la mort sur les hommes. La cité de la mort est la cité la plus peuplée de l'univers. Là-dedans, on peut trouver Alexandre le Grand, dont j'ai parlé tout à l'heure, Napoléon, Nebuchadnezzar, tous les grands de l'histoire humaine et aussi tous les petits, tous ceux qui ont vécu sur la planète et qui sont morts, sont dans la cité de la mort, dans un lieu d'attente que la Bible appelle le séjour des morts. Mais l'humanité mourante a pour elle un champion. Un jeune homme, un jeune Galiléen, un jeune Jésus de Nazareth, qui a affronté tout seul cet ennemi héréditaire de l'humanité, et il n'est pas le seul qui a affronté la mort, mais lui l'a vaincu. Lui l'a vaincu, il faut absolument que les chrétiens comprennent cette vérité et basent leur vie dessus. La résurrection de Jésus est aussi la condition préalable de l'établissement de son règne. S'il n'avait pas été ressuscité, c'est évident, il n'aurait pas pu établir son règne. Jean 12, 27, 32, 34. « Maintenant mon cœur est troublé. Et que dirais-je ? Dirais-je, Père, délivre-moi de ce qui va arriver en cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, pour passer par cette heure de souffrance. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces mots, il indiquait de quel genre de mort il allait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris dans les livres de notre loi que le Messie vivra toujours. Alors comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé, crucifié ?» Jésus parle évidemment de sa mort et de sa résurrection. Comment le roi promis, dont le règne doit être éternel, peut-il annoncer sa mort? Eh bien, il peut l'annoncer parce qu'il sait qu'après, il l'a annoncé aussi, après il y aura une résurrection.
Bon, aussi important que la mort et la résurrection de Jésus soient dans le dessein de Dieu, le dessein restera inachevé sans un troisième événement, c'est-à-dire la montée de Jésus vers le ciel, au ciel. Et on appelle ça l'ascension. L'ascension est beaucoup plus donc qu'une fête liturgique qui se passe au mois de mai, quelque chose comme ça, un jeudi je crois, au mois de mai. Parce que c'est, si vous voulez, le couronnement indispensable du dessein de Dieu. C'est le fait que la mission, qui porte la mission du Christ à sa plénitude, ou à son accomplissement. Il y a toute cette préparation, et puis le Christ arrive, et il prêche, il annonce ce qui va se passer bientôt, et puis il meurt, il ressuscite, et puis il y a, si vous voulez, le couronnement, l'ascension, il remonte d'où il est venu. Et donc, cela, ces trois rapports, que cette ascension nous montre pas mal de choses. Premièrement, il y a la plénitude de la révélation, c'est-à-dire dans l'ascension, tout est accompli, tout est accompli. Jésus a dit déjà sur la croix, tout est fini ou accompli. Et là, avec l'ascension qui arrive 40 jours après sa résurrection, vraiment la révélation est complète. Bon, la preuve suprême que Jésus est le Fils de Dieu, que le Christ, le Père, c'est que dans le Christ, le Père s'avance et se fait connaître, c'est l'ascension. Au cours des controverses sur son identité, est-il le Messie ou pas, Jésus dit aux gardes envoyés pour l'arrêter, c'est en Jean 7, verset 33, « Je suis avec vous pour un peu de temps encore, mais je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. » Donc il annonce là déjà, ça c'est chapitre 7 de Jean, donc vers le milieu de son ministère. Donc, en voyant Jésus monter vers le ciel, les apôtres qui étaient avec lui, les disciples comprendront qu'il en est issu, qu'il vient de là-haut. La résurrection n'a fait de Jésus à leurs yeux qu'un Messie humain revenu à la vie. Mais avec l'ascension, il montre qu'il est le Fils qui, en montant auprès du Père, il rentre chez lui. C'est ça l'importance de l'ascension. Bon, les apôtres ont bel et bien vu partir le Christ dans les airs, ce qui marque son passage de notre monde au monde divin, c'est-à-dire qu'il rentre au ciel.
Deuxièmement, la plénitude du règne. La montée de Jésus au ciel marque, et il faut bien souligner ceci, marque le début chronologique de son règne messianique, le début en temps de son règne messianique, le moment dont il parlait quand il disait « Le règne du Messie est proche ». Marc 16, 19, après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Cette expression « être assis à la droite de Dieu » ou « siéger à la droite de Dieu » revient une quinzaine de fois dans le Nouveau Testament et toujours au sujet de Jésus-Christ et de son règne. Maintenant, il s'agit évidemment d'une image. Il ne faut pas imaginer que quelque part dans l'univers, il y a un véritable, je veux dire, un trône royal en or ou en ivoire ou en bois physique sur lequel le Christ est assis. C'est très réel le fait qu'il soit assis sur un trône, mais ce trône n'est pas un trône physique, c'est un trône spirituel. Et le fait qu'il soit assis aussi est assez important, je crois. Les rois de l'Antiquité s'asseyaient pour exercer leur autorité. Quand ils voulaient juger quelqu'un ou promulguer une loi ou recevoir des ambassadeurs, ils se mettaient assis sur leur trône. Jésus s'assoit sur son trône royal pour régner dans le règne messianique. Siéger à la droite de Dieu, l'expression, veut dire occuper la place du pouvoir auprès de Dieu, veut dire être investi de l'autorité royale de Dieu lui-même sur toute chose et partager son trône, être assis avec Dieu sur son trône. Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il dit bien « tout pouvoir ». Ça veut dire sur la nature et sur les anges et sur les hommes et sur les nations et sur la vie et sur la mort et sur le temps et sur l'espace. Ça veut dire toute chose. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à son règne et à ses puissances. Même les forces du mal lui sont soumises. Parfois, il est difficile de comprendre ce point-là. Quand on voit le mal qu'il y a dans le monde et quand on constate à quel point la méchanceté est partout. Et il serait facile de dire, où est le règne du Christ? Ne règne-t-il pas? Peut-être qu'il ne règne pas puisqu'il y a tout ce mal. Mais il ne faut pas oublier que même dans le domaine des royautés humaines, ça n'est pas parce qu'il y a, par exemple, on prendra une royauté en Angleterre, ce n'est pas parce qu'il y a des criminels ou des meurtriers en Angleterre, qu'il n'y ait pas une règne, qu'il n'y ait pas un souverain ou une souveraine. Ces gens vont à l'encontre de la volonté de celui ou de celle qui règne dans ce pays, mais leur existence ne renie pas l'existence de la royauté et d'un règne supérieur. Mais là, il y a une autre chose aussi dans le règne de Jésus. C'est que Jésus contrôle, d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre, il contrôle les forces du mal. Il ne les dirige pas, c'est pas ce que je veux dire, il les contrôle, les forces du mal qui sont sur la terre. C'est-à-dire, elles sont, ces forces, limitées. Et à tout moment, Jésus est capable de mettre un frein à tout cela. D'ailleurs, le jour va venir, selon ce que la Bible dit, où il dira, ça suffit comme ça, et il va régler tous les comptes, parce que le jugement est promis, le jugement pendant lequel tous auront ce qu'ils auront mérité, ou plutôt, comme l'expression de la Bible dit, les hommes auront selon ce qu'ils auront fait sur la terre.
Donc il y a la plénitude de la révélation, ce qui est l'ascension, et ça, la fin de la révélation, pardon, où il y a aussi le début du règne du Christ qui commence avec l'ascension, et troisièmement, il y a ce qu'on appelle la plénitude de la rédemption, c'est-à-dire l'œuvre est accomplie qu'il est venu faire sur terre. Parce que dans la mort et la résurrection du Christ, nous voyons l'âme dans la personne de son représentant délivrée du péché et de la mort. Mais ce n'est pas encore là la plénitude de notre salut, parce qu'il y a encore quelque chose après. Nous sommes pardonnés. Nous ne sommes plus sous la domination de la mort, mais il y a quelque chose qui nous attend après. Qu'est-ce que c'est? Nous avons une destinée encore plus haute que celle d'une existence corporelle, même éternelle sur cette terre. Nous ne sommes pas limités à ce monde-là. Par l'ascension, Jésus porte l'humanité jusqu'aux portes des cieux, pour participer avec lui à la divine et la vie divine et à la gloire du Fils de Dieu. Lui, avec lui, nous sommes les co-héritiers et nous avons là cette promesse de règne avec lui. Philippiens chapitre 3, le verset 20 et 21, car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Christ Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Donc, à la mort, résurrection, ascension de Jésus, le dessein de Dieu se réalise et la destinée finale de l'homme est dévoilée. Le fidèle suivra le même itinéraire que Christ a suivi pour rentrer chez son Père. Voilà comment nous allons rentrer. Bon, les évangiles se terminent donc par cette vision du Christ intronisé. Il est assis à la droite de Dieu, en qui s'est réalisé le plan de Dieu, la rédemption de l'homme est acquise, le règne messianique sur toute chose est inauguré. Et puis, Actes chapitre 5, versets 30 et 31, le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur. Et nul ne saurait se nommer chrétien sans croire de tout son cœur à ces vérités. Il faut que je croie que Jésus est le Christ, qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité et qu'il règne maintenant. Autrement, je ne peux pas me dire chrétien.
L'ascension du Christ ouvre une nouvelle et aussi une dernière période dans l'histoire du monde. La Bible appelle cela les temps de la fin. C'est l'ère messianique, les temps où le Messie exerce effectivement son règne, le règne qu'il s'est acquis pour nous et pour notre rédemption. Et c'est en fonction de ce double dessein de Dieu, dessein comprenant donc son règne et la rédemption qu'il nous a obtenue, que l'Église du Christ trouve son identité. L'Église est d'abord la communauté d'hommes et de femmes qui ont accepté cette royauté divine de Jésus et qui se sont soumis à son autorité volontairement. Le règne de Christ englobe en fait tous les êtres humains, les méchants comme les bons, qu'ils le sachent ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas, tout le monde y est englobé dans ce règne. Mais quand on accepte librement de lui obéir, quand on accepte son règne de façon libre, quand on choisit de l'aimer et d'accepter sa rédemption, eh bien on entre dans une sorte de royaume particulier à l'intérieur du royaume ou du règne plus général de Jésus. Alors le règne du Messie, sous sa forme la plus élevée et la plus pure, s'exerce donc dans mon cœur et dans le vôtre, dans le cœur de ses sujets obéissants et au sein du peuple qu'il forme. Éphésiens 1, 22-23. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. La présence du Christ, c'est-à-dire son règne, son autorité royale, s'étend jusqu'aux limites de l'univers. Mais la grandeur de ce règne, sa sagesse et sa justice et son caractère bénéfique se manifeste de manière très évidente dans le cœur de ceux qui l'ont accepté, de ceux qui ont cru en lui et qui ont engagé leur vie pour lui. En d'autres termes, le Christ règne déjà extérieurement sur nous tous, mais ce qu'il veut faire, c'est de régner intérieurement sur nous tous. Il veut régner sur nous de l'intérieur. Non pas par la force, mais par l'amour. Nous savons tous qu'il est capable de nous forcer à l'aimer. Il n'aurait qu'à couper l'air pendant 30 secondes et à dire, si vous ne voulez pas venir à moi, je coupe pendant une minute, après une minute 30, et puis après deux minutes. Vous voyez, il pourrait tout faire, ce serait simple pour Dieu, de forcer notre obéissance. Mais c'est évident que Dieu ne veut pas forcer notre obéissance, il veut que nous venions à lui volontairement. Il veut inspirer notre amour et il a tout fait pour que nous l'aimions.
Bon, par rapport à la rédemption, l'Église dont nous sommes en train de parler, parce que je crois que vous avez le schéma, n'est-ce pas, devant vous, il y a le règne universel et puis l'Église, le règne particulier du Christ, là. Bon, cette Église est composée, comme Charles a mentionné, d'hommes et de femmes qui ont admis à quel point ils sont sous l'emprise du mal et qui ont reconnu en Jésus l'envoyé de Dieu qui peut les délivrer de ce mal. Donc, ce sont des personnes qui se sont soumis à lui pour être pardonnées, pour être libérées, si vous voulez, de ce mal. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière pour ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arraché de la puissance de l'obscurité et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, grâce auquel nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Voilà la bénédiction d'être dans l'Église. Bon, il s'agit ici, comme Charles a dit, du règne particulier du Christ, de la sphère où sont dispensés pleinement les biens messianique. Et ça, c'est la grâce de Dieu que ça, c'est possible, que ça existe, à condition d'être accepté. Et il y a toujours cette condition. Vous avez cela si, et là, dans notre cas, nous avons cette bénédiction si nous l'acceptions. Il faut avoir cette foi, cette confiance-là. Bon, quelqu'un a dit, avec raison peut-être, qu'il est plus facile à croire en Dieu qu'en l'Église. Et malheureusement, c'est vrai parfois, parce que l'Église, n'est-ce pas, est composée de personnes, des personnes faibles, qui ne sont pas parfaites. Et donc ça fait que les gens, ils ne reconnaissent pas bien Dieu à travers l'Église. C'est dommage, parce qu'il y a une raison pour que l'Église existe. Pourquoi pas être chrétien, si on peut se demander, chacun dans son coin, si l'Église n'est pas importante. Mais la chose à se rappeler, c'est que l'Église est importante dans les yeux de Dieu, dans le plan de Dieu. Malgré nos faiblesses, nous qui formons l'Église, nous ne pouvons pas dire non à l'Église. Pas seulement parce qu'elle appartient à Dieu. L'Église appartient à lui parce qu'il a acheté avec le sang de son propre Fils, ou c'est l'Église qui appartient au Christ. Mais aussi parce que nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin de l'Église. Elle est le témoin et le signe du dessein de Dieu pour continuer sur terre l'œuvre de son maître. Voilà l'importance. Lisons ce qu'a dit l'apôtre Paul au sujet de lui-même et de son rapport avec l'Église. C'est en Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 11. « Je suis le moindre, que le moindre de tous les membres du peuple de Dieu. » Paul, il s'humiliait, il était humble. Et il ne se voyait pas comme quelqu'un de très important. Et pourtant, il a accompli pas mal de bonnes choses, n'est-ce pas? Et c'est peut-être à cause de cette humilité qu'il avait. Mais je suis le moindre que le moindre de tous les membres du peuple de Dieu. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la bonne nouvelle de la richesse infinie du Christ et d'amener tous les hommes à distinguer comment le plan secret de Dieu doit se réaliser. Dieu, qui est le créateur de toutes choses, a tenu caché de ce plan depuis toujours, afin que maintenant, par le moyen de l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse de Dieu sur tous ses aspects. Dieu a agi ainsi conformément à son intention éternelle qu'il a réalisée par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le dessein des siècles, ou le dessein éternel, le plan éternel, cette œuvre grandiose et insondable de la sagesse divine que Dieu avait en vue, dans l'acte même de la création, et qu'il a réalisé dans la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, ce dessein aboutit à l'Église. Donc l'Église a un rôle incroyable, une responsabilité incroyable dans le dessein de Dieu. Donc loin d'être une pensée après coup de Dieu, cette Église qui était conçue dès avant la création, pour être une manifestation tangible du dessein de Dieu dans le monde. Devant le spectacle de l'Église, même les puissances spirituelles sont obligées d'admettre l'empire de Christ et son pouvoir de salut.
Tout cela implique une conception assez élevée de l'Église, n'est-ce pas? Comme Pierre dit dans 1 Pierre 2, 9, « Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. » Pierre ne veut pas susciter chez ces chrétiens qui ont reçu cette lettre un sentiment d'orgueil spirituel. Il ne s'agit pas de cela. Il ne veut pas nous dire que nous sommes les élites de Dieu, mais que nous sommes les élus de Dieu. Et il y a un monde de différence entre ces deux termes et la signification de ces deux termes. Il veut dire que cette portion d'humanité que constituent les croyants a été mise à part, sanctifiée, mise à part, et cela dans un but. Le but, c'est de témoigner auprès du monde de ce dessein dont nous parlons dans ces après-midi ensemble. Le but de l'Église, le travail de l'Église, c'est d'abord d'adorer Dieu, de célébrer Dieu qui nous a sauvés de notre péché et qui nous a acceptés dans son dessein. Et deuxièmement, de servir nos concitoyens, de servir ceux qui sont avec nous sur cette planète. Mais en même temps, l'Église n'appartient pas au monde. Nous sommes dans le monde, comme Jésus a dit dans Jean 17, de ses disciples, mais nous ne devons pas être du monde. Nous sommes appelés à vivre de manière différente du monde. 1 Pierre 1, 14, 15, « Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. » Une chose qui convient de dire, et même souvent, c'est que la notion de sainteté ou de ceux qui sont saints ne s'applique pas, ne doit jamais s'appliquer à une élite qui aurait été canonisée après leur mort, etc., à cause de leur grande moralité, de leur grande foi. Dans la Bible, tout chrétien, absolument tout chrétien, est appelé à être saint, à être un saint. Ça ne veut pas dire que nous sommes capables de vivre sans péché, ça veut dire que nous sommes capables, nous devons même, vivre dans notre confiance à Dieu et sous la protection de sa justice qu'il a obtenue d'ailleurs à la croix. Le saint qui est canonisé à cause d'une vie morale exceptionnelle, etc., n'existe pas en réalité, le super chrétien n'existe pas. Tous les chrétiens, les plus forts comme les plus faibles, ont des péchés, et plus on est fort dans la foi, je crois, plus on se rend compte de sa faiblesse. Une autre chose qui n'est pas bien comprise par le monde, c'est que le chrétien ne peut pas être quelqu'un qui pratique seulement. La terminologie qui dit que je pratique telle ou telle religion, ou quand on dit je suis un croyant non pratiquant, alors là, on n'a pas vraiment compris. Ce qu'on dit d'habitude dans ces cas-là, ce que je dis, c'est qu'on a dit, je sais, vous avez entendu, quand on entend quelqu'un qui dit « je suis un croyant non pratiquant », c'est que, est-ce qu'on peut dire qu'on est un végétarien non pratiquant? Ça n'a pas de sens. Quand on est un croyant, on pratique. Si on ne pratique pas, on n'est pas un croyant. La notion d'être croyant non pratiquant ne peut pas exister. C'est l'affaire de... Enfin, c'est un gros malentendu. La plupart des gens qui se disent croyants non pratiquants, la plupart des gens dans notre pays se disent croyants non pratiquants. Mais ça ne peut pas être d'aucune logique normale quand on considère exactement ce que ça veut dire. Selon l'épître de Jacques, en plus, les démons, les anges du Satan, sont des croyants non pratiquants. Eux, ils croient en Dieu, mais ils ne pratiquent pas. Mais ce n'est pas une référence, voyez-vous. La question n'est pas de savoir si nous pratiquons une religion ou pas. La question est de savoir si nous sommes entrés dans le dessein de Dieu et si le fait d'entrer dans ce dessein de Dieu nous a changé notre vie.
Bon, ce dessein de Dieu a pour premier résultat la naissance d'un peuple appelé à vivre d'une manière sainte. Et Charles a déjà fait allusion à cela. Tite 2, 11 à 14, l'Église. Car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs de ce monde pour que nous vivions dans le temps présent avec réserve, justice et piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne, qui soit plein d'ardeur pour les belles œuvres. Et nous apprenons trois choses ici sur la sainteté à laquelle est appelé tout membre de l'Église. Ce n'est pas pour, comme a dit Charles, pour un certain nombre, mais pour tout le monde. Nous sommes tous appelés à être saints. Il y a trois choses à relever. Premièrement, si vous voulez les noter, la sainteté fait partie de la grâce de Dieu. Et ainsi, elle est synonyme de dessein bienveillant en faveur de l'humanité. La sainteté fait partie de la grâce et aussi du dessein de Dieu. Première chose, c'est une partie de ce qu'il a voulu pour tous les hommes, la sainteté. Deuxièmement, elle s'exerce dans la perspective d'une espérance, d'une attente. Cette attente qui était plantée dès le début du monde par les annonces de Dieu ou des prophètes de Dieu et qui ont été réalisées dans le Christ. Et surtout au moment de son intronisation, quand il est monté au ciel, s'assoit à la droite de Dieu. Donc elle s'exerce dans la perspective d'une espérance, car nous croyons aux promesses de Dieu. Il nous a promis des choses et j'agis selon ces promesses-là. Et une des choses que je fais, c'est que je vis d'une manière sainte. Nous croyons ces promesses et cela nous donne donc l'espérance qui nous motive à vivre d'une manière sainte. Troisièmement, la sainteté comporte un côté négatif et un côté positif. Être saint s'agit d'abord de se débarrasser de la mentalité du monde. C'est un peu l'idée de repentance que nous avons définie tout à l'heure. De nous débarrasser de la mentalité du monde avec son impiété et ses désirs. C'est ça la repentance continuelle. C'est quelque chose qu'on fait au moment qu'on croit, mais qui continue tout au long de notre vie. Nous sommes appelés par exemple à être sanctifiés dans notre vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, le mot sanctifié veut dire littéralement coupé de, ou être mis à part. Nous sommes coupés de ce qui est mauvais, on enlève ce qui est mauvais pour être pur ou être saint. Mais ensuite, il y a le côté positif de la sainteté qui veut dire se donner à de belles œuvres dans ce texte que nous venons de lire. Bref, de faire du bien. On se débarrasse d'un côté de ce qui est mauvais, mais on remplit sa vie, pas seulement avec de bonnes pensées, c'est pas ça, mais avec de bonnes actions, de bonnes œuvres, de bonnes choses, qui montrent en effet notre appartenance à Dieu, qui lui aussi comble notre monde de bonnes œuvres, de bons services. Le Nouveau Testament présente cette sainteté comme une conformité à l'image du Christ. Donc, si je suis saint, je vis d'une certaine manière, je suis en train d'imiter Jésus. Et c'est ça la plus importante de tout, je crois. Romains 8, verset 28-29. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et la mention du Fils nous amène au deuxième thème que nous affleurons au sujet de l'Église.
Et ce thème, c'est celui de l'adoption. Dieu a un Fils. Jésus est appelé le Fils unique. Mais il y a dans la famille de Dieu beaucoup de fils et de filles. Ce sont donc des fils et des filles qui ont été adoptés. Dieu a en quelque sorte, il nous a en quelque sorte adoptés dans la famille royale, dans laquelle nous devenons, avec le Fils unique, co-héritier des biens messianiques. Quand on est dans la famille de Dieu, nous avons une certaine identité et une certaine destinée qui est liée à ce dessein de Dieu que nous n'aurions pas eu en dehors de cette famille. Nous sommes des frères et sœurs aujourd'hui, liés les uns aux autres, mais nous sommes liés les uns aux autres, non pas parce que nous sommes des gens plutôt sympathiques ou vertueux, etc. Ce n'est pas ça qui nous lie. Ce qui nous lie surtout, c'est que nous sommes dans la même famille, c'est que nous sommes en Christ, selon l'expression de l'apôtre Paul, et nous sommes intégrés dans le dessein de Dieu qu'il a réalisé par sa mort et sa résurrection et son ascension. Cette filiation adoptive des chrétiens fait partie de ce projet que nous appelons dessein depuis le début. Éphésiens 1, 4 et 5, dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Galates 4, 4 et 5 et 7, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et si tu es fils, tu es aussi héritier selon la grâce. Un héritier est quelqu'un qui a droit à l'héritage. Et cette notion d'héritage est très très importante dans tout l'Ancien Testament surtout, et aussi dans ce contexte, dans le Nouveau Testament. Nous sommes fils d'Abraham et nous sommes fils de Dieu parce que nous avons part aux promesses que Dieu avait faites à l'humanité depuis l'époque des patriarches. Souvenez-vous que nous avons parlé des trois principales promesses faites à Abraham, une nation, une terre et une bénédiction pour l'humanité tout entière. Eh bien, nous faisons partie de toutes les promesses, pas simplement de cette troisième, mais surtout de cette troisième promesse. Nous faisons partie de ceux qui ont été bénis, qui sont héritiers de la promesse d'une grande bénédiction sur toute la terre pour ceux qui viendront donc. Ce nous avons compris peut-être mieux qu'Abraham, pour ceux qui viendront nous associer volontairement à son, sa descendant, son descendant qui est Jésus-Christ. Romains 8, 17, nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple, nous y aurons part avec le Christ. Ce qui nous unit donc dans une même famille, c'est que nous avons part au même héritage. Et quel est cet héritage? L'héritage, le Nouveau Testament nous explique, nous avons déjà reçu un acompte, pour ainsi dire, et cet héritage nous sera donné donc dans son entier après cette vie sur la terre. Il s'agit de la vie éternelle. Quand on devient chrétien, on reçoit la vie éternelle, nous recevons la vie en Christ qui commence maintenant et qui continuera dans toute l'éternité et qui sera concrétisée, amplifiée, tout ce que vous voulez dire, au moment où nous entrerons devant la face de Dieu, dans les cieux. Dieu n'a pas envoyé son Fils simplement pour que les gens habitent ensemble en communauté et qu'ils aient une vie de communauté fraternelle dans l'Église. C'est fantastique, mais ce n'est pas que cela pour cela qu'il nous a, il a envoyé Jésus. Si quelqu'un vous dit qu'il est possible d'être chrétien sans aller à l'Église, dites-lui qu'il est aussi possible d'être père de famille et mari sans jamais rentrer à la maison le soir. Mais il ne faut pas le conseiller, ce genre de comportement. Hein? L'Église et la foi, l'Église et Dieu, être dans la famille de Dieu et aller à l'Église et faire partie de l'Église, participer à l'Église, tout cela va ensemble. Il n'y a pas moyen vraiment de le séparer. Toujours est-il que Jésus n'est pas venu pour églisifier le monde ou pour rendre les gens religieux. Il est venu pour donner la vie éternelle. Jean 10, verset 10. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance.
Bon, voilà la promesse. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais qu'est-ce que nous avons en attendant cela? Nous avons une promesse. Une promesse, nous avons la capacité d'entendre la promesse et de le croire et de vivre sa lumière. Mais quelqu'un dira, mais c'est tout, une promesse? Juste une promesse? Et je dirais oui, une promesse. Juste une promesse. Mais, Tite 1, verset 2, écoutez ceci. Dans l'espérance de la vie éternelle, promise avant les temps éternels par le Dieu qui ne ment pas. Ce n'est pas la promesse de n'importe qui, de la part de n'importe qui. C'est la promesse qui est donnée par le Dieu qui ne ment pas. Donc j'ai une promesse. Mais parce que je crois en ce Dieu qui ne ment pas, je sais que cette promesse va arriver. C'est très important. Bon, il faut aborder ici, avant de passer à la section suivante que nous allons aborder la semaine prochaine, j'aimerais qu'on aborde juste brièvement le sujet du Saint-Esprit, que quelqu'un a appelé la grâce constitutive de l'Église. La grâce constitutive de l'Église, c'est-à-dire la chose qui fait marcher l'Église et tout ce qui arrive dans ce temps, ces derniers temps. Bon, selon le témoignage global des Écritures, le rôle principal de l'Esprit dans l'histoire sainte consiste à révéler aux hommes le dessein de Dieu. Ça a toujours été, et ça, c'est toujours le cas, de révéler aux hommes le dessein de Dieu. Or, depuis la mort, résurrection, ascension de Jésus, l'Esprit fait connaître ce dessein par le moyen de la prédication de l'Évangile. C'est-à-dire, Jésus est mort à la Pâque, ou juste avant la Pâque. Il est ressuscité un dimanche matin, le premier jour de la semaine. 40 jours plus tard, il est monté au ciel. 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, donc 50 jours après la Pâque, il y avait ce qu'on peut dire l'établissement de l'Église par la première prédication que les apôtres ont donnée. C'est-à-dire il les avait envoyés en mission le Christ, et les apôtres ont été fidèles à cette mission. Ils ont annoncé la parole de Dieu, mais c'était avec la venue du Saint-Esprit qu'ils ont fait cela, parce que ce même jour, ils ont reçu l'Esprit. Bon, 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12. Or, c'est à nous que Dieu a révélé le secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul l'Esprit qui est en lui connaît tout ce qui lui concerne, le concerne. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions tout ce que Dieu nous a donné. Et puis, il y a Éphésiens 1, verset 13.